Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, une nouvelle émission spéciale à l'occasion des 18e États de la France. C'était cette semaine à Paris. Nos quatre invités y ont tous participé. Ils vont nous dire si, selon eux, la Maison France va bien, si elle va mieux ou moins bien. Et surtout, quels sont ses atouts, ses points forts, mais aussi ses axes d'amélioration. Avec nous donc aujourd'hui dans cette émission spéciale de La France a tout pour réussir, tout d'abord, Éric Fourel. C'est le président d'EY France. À ses côtés également avec nous en plateau, Alain Roumillac, le président de Manpower Group Europe du Sud. De l'autre côté du pupitre, Olivier Perret, c'est le président France et directeur des Nouvelles Énergies Europe chez SLB, l'ex-groupe Schlumberger. Enfin également en plateau avec nous, David Martin, c'est le vice-président d'Air Products France. C'était donc cette semaine la 18e édition des États de la France. Vous allez en voir quelques photos si vous nous suivez en télévision et sur le web. Comme chaque année, les plus grandes entreprises mondiales se sont réunies au CESE, au Conseil économique, social et environnemental à Paris, pour exprimer, je vous le disais, donc leur ressenti et leur vision de ce qu'est la France aujourd'hui. De tout cela, nous allons débattre et discuter ensemble aujourd'hui avec mes quatre invités. On va commencer par vous, Éric Fourel. Bonjour.
Très bien, bonjour Jérôme.
Président donc de EY France, et en matière d'attractivité de la France, eh bien, c'est votre baromètre qui depuis de nombreuses années fait référence. On va le détailler dans un instant. Mais tout d'abord, rappelez-nous quelques chiffres clés. Le poids des entreprises à capitaux étrangers en France, plus de 16 800 entreprises. C'est gigantesque.
Oui, ça doit être ça. Je crois que ça représente...
Je crois que c'est peu en nombre de pourcentage. C'est 1% des
entreprises. C'est 1% des entreprises en France.
Mais c'est 13% des emplois salariés.
13% des emplois, 22% de la production et c'est 30% des exportations. Donc,
Et ça compte quand on a une balance commerciale dans notre État.
Oui,
ça compte,
les exportations. On perd souvent de vue, mais en fait, les entreprises étrangères en France sont de très grosses contributrices à l'exportation française et à la balance commerciale qui en a bien besoin.
Et même donc un quart, je crois, de la R&D privée qui vient de ces entreprises. C'est un poids, donc on l'a vu, considérable. Si on en vient donc au conclusion de ce baromètre EY de l'attractivité 2023 qui recense ce qu'on appelle les IDE, les projets d'investissement direct en France en 2022. D'abord en chiffres, on était en légère hausse sur 2022 versus 2021.
Oui, exactement. La France continue de faire la course en tête, en fait. C'est la quatrième année consécutive. Et ça, ce n'était pas produit depuis plusieurs décennies, en fait, où la France est le pays le plus attractif en Europe pour ce qui est des implantations par les investisseurs étrangers. Et donc, on est à 1259 sur l'année 2022 d'implantations réalisées par les investisseurs étrangers. C'est devant le Royaume-Uni, c'est devant l'Allemagne. C'est une légère progression par rapport à 2021.
C'est plus 3%, mais on creuse l'écart parce que les autres y reculent plus.
Les autres régressent, effectivement. L'Allemagne régresse, le Royaume-Uni régresse. Clairement, le Royaume-Uni paye l'effet Brexit et l'Allemagne pâtit en fait de la crise énergétique et de ses difficultés en matière de démographie aussi fortement.
Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans la progression même si elle est un peu plus faible? Est-ce que c'est quoi? Ce sont les différentes réformes qui ont été menées sur le travail, etc.
Tout à fait. Enfin, je pense, Jérôme, qu'on peut le dire sans aucun doute possible. On récolte les fruits de cette politique de l'offre qui a été menée de manière ininterrompue depuis 2015 environ, depuis l'introduction du CICE. Et puis ensuite, il y a eu tout le lot des réformes à travers, en particulier, la baisse programmée de l'impôt sur les sociétés qui est passée de 34,5% à 25%. 25%, c'est un peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE, mais on est vraiment complètement dans la course. C'est la baisse aussi des impôts de production, hein, plusieurs dizaines de milliards tous les ans qui ont été rabotés sur les impôts de production, même si la dernière tranche a été décalée.
Un peu décalée,
Décalée. Mais c'est aussi les réformes de fond sur le marché du travail en particulier, et puis c'est avant tout la stabilité, la persévérance et la communication autour du France is back, du sommet de Versailles, Choose France. Il y a une image nouvelle de la France qui est portée à l'étranger qui est extrêmement positive aujourd'hui, et tout cela contribue en fait à ces excellents résultats en matière d'attractivité.
De bémol, Éric Fourel, sur les investissements qui créent quand même moins d'emplois que dans d'autres pays, et puis les quartiers généraux des grandes entreprises étrangères ont du mal aussi à s'implanter en France. Ce sont les deux bémols que vous mettez en avant dans votre étude.
C'est vrai. Alors le moindre nombre d'emplois, c'est une constante qu'on retrouve aussi depuis plusieurs années. On est à 33 emplois en moyenne en France par projet. Donc, il y a des petits, il y a des gros projets. Et puis, vous avez entendu hier l'annonce de Novo Nordisk à 2,1 milliards et plusieurs milliers d'emplois à Chartres en prévision. Donc, bon, il y a des, voilà. Mais en moyenne, effectivement, on est à 33 emplois, alors que l'Allemagne, de mémoire, est autour de 55, le Royaume-Uni de 60. Donc, on est en dessous en termes d'emplois. Et ça, on peut probablement l'expliquer par le fait que les charges sociales en particulier restent, les charges sociales patronales restent en France sur les rémunérations intermédiaires, les rémunérations élevées, plus fortes que dans d'autres pays. Et puis, on peut peut-être aussi dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la flexibilité en matière de gestion des effectifs. France reste un pays où il est difficile d'ajuster ses effectifs. On est obligé de justifier d'un certain nombre de difficultés économiques, alors que d'autres pays acceptent qu'on ajuste ses effectifs simplement en fonction d'une quête de rentabilité supérieure. Et donc les investisseurs hésite avant d'aller sur des projets d'implantation à fort emploi, parce que ensuite elle va avoir plus de mal pour les ajuster si jamais les résultats sont pas tout à fait à la hauteur de ce qui était espéré dans
vous
le
m'amenez sur le terrain de l'emploi. Je passe la parole à Alain Roumiac. Ce manque de flexibilité que décrit Éric Fourel ou en tout cas les investisseurs, est-ce que vous trouvez qu'on manque de flexibilité sur le marché de l'emploi, vous le spécialiste évidemment de l'emploi à la tête de Manpower Group Europe du Sud?
Bonjour. Il me semble que c'est moins un problème de flexibilité qu'un problème de relations sociales. Et que d'ailleurs, quand on regarde un certain nombre d'autres baromètres, c'est la difficulté de la relation sociale, la longueur des procédures, plus que l'aspect plus flexibilité. Je crois que les ordonnances du début du premier quinquennat Macron ont apporté de la flexibilité, mais le dialogue social reste compliqué, ou en tout cas est vu par les entreprises étrangères comme étant un vrai frein. Et souvent, y compris, vous avez beaucoup d'entreprises étrangères liées à la longueur du processus social, même quand elles doivent se réorganisent plus tard en France qu'elles ne le font dans d'autres pays.
Je reste avec vous, Alain Roumiac. On a vu donc les principaux points de cette étude, de ce baromètre de l'attractivité. Quel est selon vous le principal atout de l'attractivité française?
Alors, moi je crois que c'est comme l'a évoqué Eric, c'est l'image. C'est cette envie qui est propagée. Donc, en particulier auprès des grandes entreprises, moi je le vois au travers des entreprises américaines, cette envie qu'on passe de dire venez, on a envie que vous veniez chez nous et on va vous bâtir un environnement dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer.
Donc c'est l'envie que l'on donne aux autres, c'est l'image que l'on donne aux autres d'un pays qui, malgré quelques défauts, est bien géré, a des infrastructures, a une qualité de vie. C'est un peu ça aussi.
C'est ça. Et puis c'est dire, et puis venez d'ailleurs, et puis venez, peut-être que vous allez voir un environnement qui est différent de l'image que l'on propage.
Que certaines images dont vous parlez.
Que l'on voit, parce qu'on passe au travers d'un certain nombre de crises et qui peuvent être
un peu violentes parfois.
Mais on est dans un environnement qui est différent et on a aussi notre responsabilité, nous, en étant ici de grands acteurs, de véhiculer un message vis-à-vis non seulement de nos headquarters, mais plus largement pour dire ok, la France, okay, parfois, il y a un peu de folklore, mais
c'est le côté latin de la France. Voilà.
D'ailleurs, un point d'actualité là-dessus. qui nous a été annoncé hier aux États de la France par Pascal Cagny, hein, l'ambassadeur
de
Business France. On lance une nouvelle campagne. La France, c'est Make It Iconic. Ah. Voilà, la France iconique.
C'est un titre que l'on aime bien en plus ici sur BFM
ça
Business.
Ça a l'image de la France aujourd'hui.
Absolument. Même question, Olivier Perret, quel est selon vous l'atout le plus important pour l'attractivité de la France ?
Pour nous, donc groupe, vous l'avez dit, Jérôme, SLB. Tout à l'heure, SLB, ancien, on nous connaît mieux sous le nom de Schlumberger, on a changé notre nom d'ailleurs.
Une entreprise quasi séculaire d'ailleurs. Hein,
c'est une start-up française.
Absolument, voilà, des années 20.
À presque 100 ans.
Des années 20, voilà.
1926, donc on a changé notre nom dernièrement pour s'afficher dans la transition énergétique, pour dire, on est là aussi dans nos métiers de base pour développer, continuer à développer, à aider à donner l'énergie au monde, hein, qui continue à en consommer de plus en plus, mais néanmoins, il faut la décarboner massivement. On est là-dedans, évidemment, on change notre nom pour ça. Qu'est-ce qui nous attire en France ? En particulier, on vient de lancer une joint venture dans l'hydrogène, qui n'était pas notre territoire habituel.
C'est à Béziers, et on va voir quelques images.
Genvia, on en parlera peut-être plus avant. Mm-hmm. Ce qui nous amène ici, c'est toujours la technologie et les compétences. Donc, s'il y en avait un critère... On en parlera d'autres, hein. Ah ouais. Il n'y a pas que ça, mais technologie et compétences, c'est science, c'est ça.
Ça reste un point fort malgré nos
reculs en France
et malgré nos reculs dans les classements, on n'arrête pas de dire qu'on recule dans les classements.
Il y a ce paradoxe,
PISA, etc. Voilà.
Pardon, il y a ce paradoxe effectivement, mais on a une élite côté science et technologie
qui reste performante,
rivalise avec tous les pays du monde, et ça, il faut que ça continue.
David Martin, la même question, le principal atout de l'attractivité de la France, selon vous, à la tête de Air Products.
Alors, je vais un peu rebondir sur ce que mes collègues disaient. Nous, on est présents en France depuis plus de 100 ans, donc pas mal de recul sur le marché français. Il y a peut-être deux points. Un, la stabilité dans le cap de devenir business friendly. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les investisseurs apprécient beaucoup. Et je pense que deuxièmement, clairement, la volonté d'être la première économie décarbonée d'Europe, c'est clairement un atout pour la France où on peut investir et véritablement développer des innovations. Donc c'est vraiment ces deux points-là.
La transition énergétique, vous en avez parlé hier lors des États de la France. Il y avait une table ronde à laquelle vous participez d'ailleurs, Olivier Perret, sur est-ce que la mayonnaise prend ? Est-ce que justement la mayonnaise prend ? Est-ce qu'on va parler des capacités, des atouts de la France dans ce domaine de la transition énergétique ?
Oui, avec David d'ailleurs, on était
tous les deux sur cette même table ronde.
On était sur la même table ronde avec Madame Delga, la présidente de la région Occitanie. J'y reviendrai parce que le rôle des régions est capital. Absolument. Là-dedans. Les ingrédients, j'ai parlé d'abord de la technologie. On a des champions en France, hein, CEA, CNRS. Donc on a créé une joint venture donc qui s'appelle Genvia avec le CEA pour développer une technologie d'électrolyse pour faire de l'hydrogène vert. C'est quand même le CEA, on le dit pas assez, et le numéro un mondial dans le dépôt de brevets.
Absolument,
dans l'hydrogène.
Ouais. On a fait une émission spéciale avec eux il y a quelques mois, donc on a bien montré l'importance du CEA et dans la recherche et in fine dans le développement pour les entreprises.
Donc cette relation qu'il faut développer entre public-privé d'ailleurs, je pense qu'il y a encore des choses à faire pour se parler encore mieux entre l'un et l'autre, mais très puissante. Deuxième élément, c'est l'outil industriel. J'ai mis mon joli pins là.
De la French Fab.
French Fab. On est très fiers, notre usine de Béziers est lauréate de la French Fab, ça veut dire vitrine industrie du futur. Hein, quelquefois on l'appelle usine 4.0. Ce mélange d'automatisation robotique digitale dans les fabrications, il se trouve qu'on est très bon en France pour faire ça. Et ce deuxième ingrédient, c'est quand même plus facile de se réindustrialiser quand il y a déjà une infrastructure dans nos entreprises, si on a déjà des installations, si on a déjà des usines locales, c'est plus simple de démarrer sur ce terreau-là et après de se développer. Et le troisième élément, qui est beaucoup plus nouveau pour nous, groupe international, quelque part, c'est la dimension locale. C'est l'écosystème local. C'est-à-dire que maintenant, l'énergie se territorialise.
Oui. Okay.
L'éolien, le solaire, la géothermie, etc.
L'hydrogène, on en reparlera dans quelques
bien
instants
sûr.
Avec
et
vous.
Et donc, c'est sur place. Ça se passe dans les territoires.
Et d'où l'importance.
Et c'est pas par hasard qu'il y avait Madame Delga dans notre panel hier aux États de la France, c'était pour montrer aussi que cet écosystème qu'on crée, public, privé, grande boîte, petite boîte, recherche, technologie, et cette discussion qu'on a en permanence maintenant avec les pouvoirs publics, locaux, l'agglo, la ville de Béziers pour nous, et la région, c'est tout à fait essentiel pour créer, avec les communautés locales aussi, parce qu'il faut embarquer aussi les communautés locales,
des projets parfaits.
Ça va aider au développement économique de la région.
Je reste sur la transition énergétique avec vous, David Martin. Votre groupe, vous étiez plutôt dans ce qu'on appelle les gaz industriels, vous y restez, mais vous axez fortement votre développement et votre croissance, et notamment en France, mais pas que, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, mais pas beaucoup en France. Il y avait de l'Espagne, il y a aussi les États-Unis. Qu'est-ce que vous allez faire en France dans le domaine de la transition énergétique avec l'hydrogène, qui est donc le deuxième pilier de votre axe de développement?
Oui, donc Air Products, c'est un acteur historique des gaz industriels, mais c'est également le plus gros producteur d'hydrogène depuis 60 ans. Ça a démarré avec la NASA. Et donc, on est dans le business de l'hydrogène depuis très longtemps. Et donc, de fait, on a pris le pari de l'hydrogène renouvelable, ce qu'on appelle des fois l'hydrogène
vert.
Voilà.
Parce qu'il y a le vert, le bleu, le gris.
Voilà, en fait,
vous, c'est vert et bleu. Hein.
Voilà, on parle de l'arc-en-ciel de l'hydrogène. Mais le pari d'hydrogène vert, c'est quoi? C'est de produire de l'hydrogène à base d'énergie renouvelable. Et donc, on a investi dans des projets tels que le projet Neom, où, par exemple, la superficie des panneaux photovoltaïques représente 80 km², le plus gros électrolyseur du monde. Et donc, cet hydrogène vert sera disponible en Europe. On a fait des annonces sur des investissements que l'on fait en Allemagne, Angleterre et Pays-Bas, et on travaille
et la France et le terminal français, c'est pour quand?
Alors voilà, on travaille fortement avec non seulement les autorités, mais aussi avec les clients pour essayer de trouver une opportunité. Clairement, quand je disais que la France souhaitait être l'économie la plus décarbonée d'Europe, clairement, c'est là où on peut jouer. Alors, ce qu'il faut comprendre également, c'est que pour faire une transition énergétique, on a besoin de beaucoup d'énergie, d'accord ? Une énergie constante, abordable et accessible. Et donc, les solutions qu'on propose vont permettre de faire un appoint à une production locale et faire avancer cette économie de l'hydrogène qui est en train de partir assez rapidement.
Qui est très importante, et je précise que nous serons une nouvelle fois au salon iEvolution en février 2024 pour une émission spéciale de BFM Business. Alain Roumillac, on a parlé de choses qui vous intéressent aussi quand on avait échangé en amont, la collaboration étroite entre les pouvoirs publics et les acteurs privés de l'emploi. On en parlait avec Olivier Perret. Pour vous, c'est aussi une des conditions pour que les choses fonctionnent et fonctionnent bien.
Un des sujets forts de l'attractivité, ce qui a été historiquement un point fort de la France, c'est les compétences. On avait des gens compétents, d'ailleurs plus productifs que d'autres, que dans un certain nombre d'autres pays. Donc ce sujet de la compétence, surtout dans un monde qui est en très grande transformation, on l'a évoqué, tout ce qui est la transition écologique va nécessiter de nouvelles compétences, et l'accélération de la transition digitale crée aussi un certain nombre de problématiques. Donc là, ce qu'il faut, effectivement, c'est travailler entre acteurs privés et acteurs publics. Aujourd'hui, on voit bien que avec un chômage de 7%, on reste avec un nombre d'emplois non pourvus extrêmement important.
Il faut qu'on se réveille, a dit le président Macron. Hein. Est-ce que vous êtes concerné par cet appel à se réveiller?
Alors, on est plus que concerné. D'abord, nous, c'est un peu notre histoire que faire de l'inclusion. Et puis, on a... C'est beaucoup investi, ça fait partie de nos investissements qu'on avait annoncés et qu'on va continuer à affirmer à Choose France, c'est de créer des capacités pour aller chercher des gens qui sont éloignés de l'emploi et puis les remettre à l'emploi. Parce que aujourd'hui, si on veut tenir cet objectif de 5% de chômage, qui me semble être non seulement un objectif social, un objectif financier, mais un objectif justement d'attractivité, parce que ce n'est qu'en allant chercher ces gens-là qu'on sera capable de régler les problèmes de pénurie de main-d'œuvre sur un certain nombre de sujets. Donc on a développé des savoir-faire, et je suis heureux que d'ailleurs, y compris d'ailleurs dans la mise en œuvre la nouvelle loi plein emploi, dans ce lien entre des acteurs publics et des acteurs privés associant leur savoir-faire, peuvent permettre déjà d'aller chercher des demandeurs d'emploi, de les mettre à l'emploi sur des métiers qui vont supporter la croissance d'un côté, et qu'on soit aussi en train de travailler sur quelles sont les passerelles pour que les métiers qui vont changer, les métiers qui vont disparaître, on soit capable d'accompagner. Et ça, c'est absolument critique. Dans ce pays, il y a un sujet qui ne manque pas, c'est l'argent. C'est, je pense que là, et quand je regarde, quand je compare par rapport aux autres pays qui sont dans mon périmètre, je pense que c'est l'utilisation de l'argent public, et entre autres de l'argent de la formation, qui me semble être sous-optimisée. Donc justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille plus ensemble, privé, public, pour s'adresser, en partant, encore une fois, en partant des besoins des entreprises, s'adresser au bon public, bâtir les bons cursus, les bons accompagnements, et ça sera, là encore, un facteur donc de compétitivité, d'attractivité.
Et c'est la clé, ça, pour atteindre les 5% et le
plein emploi. C'est la clé pour
atteindre
les 5%, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est associé à beaucoup de projets dans le nord de la France sur les projets de batterie, vous assurer que c'est absolument critique pour que, d'ailleurs, les investissements qui ont été annoncés soient réalisés au niveau où ils ont été annoncés. Parce que, bien évidemment, si on n'est pas capable de trouver les compétences sur une zone géographique relativement limitée, ben, ça limitera obligatoirement les investissements. Voir si on a la capacité à montrer qu'on va plus vite et plus fort que d'autres, ben, peut-être qu'il y a encore d'autres investissements qui viendront.
Dans vos entreprises, messieurs, est-ce que les sujets de l'emploi et des formations sont aussi cruciaux? Parce que nous, dans notre quotidien de journaliste, on a des patrons qui nous disent ça. Je veux recruter encore, j'ai du mal, ou les gens ne sont pas assez formés. Qui veut prendre la parole?
Moi, je veux bien. On en revient un peu à ce qu'on discutait d'ailleurs sur notre panel hier. Je crois que c'est Mme Delga qui avait émis le... Il avait dit il faut qu'on refasse un peu notre récit industriel. C'est quoi notre histoire autour de l'industrie? Il a été dégradé, ou plutôt on l'a pas suffisamment bien porté ces dernières années, et donc il faut le reconstruire. Et grâce à un récit industriel qui va emporter un peu tout le monde, et surtout les jeunes, oui, et leurs parents, qui vont leur dire, bah si, ça vaut le coup d'aller travailler dans ce genre de métier.
Parce qu'il faut dire que ce n'est plus Zola. Les industries, il y a encore une image.
Si vous nous écoutez de venir voir nos usines, c'est tout à fait inspirant.
Absolument.
Maintenant, avec des très belles histoires justement, où nos collaborateurs démarrent à tout niveau, hein, il n'y a pas que des bacs plus 12, au contraire, et dans nos usines, après, il y a toute cette évolution, et donc il faut que nous, on s'empare de ça un peu, et puis qu'on recrée ce récit.
David et Martin, inspirant. Même chose.
Et étant dans une phase d'investissement majeur en Europe, et j'espère bientôt en France aussi, les quelques exemples que je vous ai donnés font que quand on pense à un investissement de décarbonation, on pense aussi formation, c'est indispensable. Chaque terminal que l'on a annoncé nécessite 1500 emplois. Et la majorité de ces emplois, ce sont des soudeurs.
Et donc, on ne trouve plus de soudeurs.
Et donc, on doit travailler avec les collectivités locales, pour construire, ou disons pour upgrader les skills pour pouvoir permettre justement d'avoir les soudeurs disponibles. Il y a une demande de soudeurs importante.
Et les débats donc en cours sur la loi immigration, faut-il prendre de la main-d'œuvre d'origine étrangère pour certains métiers? Certains disent oui, d'autres non. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si je vous mets la question entre les mains.
En tout cas, nous, ce qu'on cherche, c'est des talents. Donc, de toute façon, tout ce qu'on peut faire pour faciliter le développement des talents, on le fera. Et tout à fait ouvert à ce qu'on utilise toutes les énergies possibles.
Il nous reste 3 minutes, messieurs. Éric Fourel a un point. Enfin, oui, je vous laisse.
À écouter mes collègues ici, j'ai envie d'ajouter un point. C'est le récit est fondamental, et le récit de ce qu'est la France aujourd'hui, de son attractivité, de sa réindustrialisation qui est en marche, est évidemment clé dans la reconstruction de cette attractivité et son accélération. Le récit du demain est également absolument central,
demain...
et en particulier autour de ce que nous allons faire sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce que la France va prendre ce virage? Comment est-ce que nos collaborateurs vont être accoutumés aux usages positifs de l'intelligence artificielle en même temps que construire la France leader, et c'était Alain qui nous le disait tout à l'heure, et aussi beaucoup Xavier, leader de cette économie, responsable de cette économie qui est en adéquation avec l'objectif de transition climatique qui est le nôtre aujourd'hui. Ces deux éléments-là, de la narration à ajouter à une France industrielle moderne telle que nous l'avons aujourd'hui, vont permettre de porter, je pense, au-delà de ce que nous vivons déjà, l'attractivité de la France à des niveaux plus élevés.
Il nous reste, messieurs, une minute environ. Très rapidement, j'ai commencé par une question sur l'atout principal en attractivité. L'axe d'amélioration essentiel pour les 2-3 ans à venir, selon vous, je commence avec vous, Alain Roumillac.
Moi, je pense qu'on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut juste qu'on le fasse, encore une fois, qu'on s'aligne tous, les industriels, les entreprises, les pouvoirs publics, les acteurs de l'emploi, les acteurs de la formation, et qu'on accélère dans tout ce que l'on met en œuvre.
Olivier Perret.
Oui, j'abonderai le dialogue local. Le dialogue local avec toutes les parties prenantes.
Et même question à vous,
Martin. Et en fait, j'allais venir au récit. Le récit que l'on donne aux citoyens, aux gens, dans les villes où on va construire nos solutions, c'est de nous aider à mieux raconter cette histoire et faire que tout ça fait sens.
Eh bien, ce récit, donc, il a été porté par les États de la France. Merci beaucoup d'en avoir été les porte-parole dans cette émission spéciale. Et on essaie, nous aussi, chaque semaine dans la France, à tout pour réussir, de faire un récit de cette France qui réussit, en tout cas qui veut réussir. La semaine prochaine, d'ailleurs, une nouvelle émission spéciale avec plusieurs PME qui participent activement, actuellement, au chantier de restauration de Notre-Dame de Paris. Philippe Jost, qui supervise cette restauration, sera d'ailleurs également avec nous en plateau. La France à tout pour réussir est diffusée en télé, en radio et sur les supports digitaux. Très belle journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.